Merci Antoine Compagnon, merci au Collège de France et aux autres organisateurs de cette célébration, de cet hommage que nous rendons à Roland Barthes. Merci chers collègues, chers amis, d'être nombreux présents ici pour nous dire, pour discuter avec nous sur le thème qui était annoncé, pourquoi nous aimons Barthes en fait. Je voudrais ouvrir ce colloque à l'occasion du 100e anniversaire de Roland Barthes par un extrait du roman de Philippe Roth, Exit the Ghost, Exit le fantôme en français, publié en 2007 aux États-Unis et en 2009 en France. Un personnage qui s'appelle Ami Bellette dit ceci. Il fut un temps où les gens intelligents se servaient de la littérature pour réfléchir. Ce temps ne sera bientôt plus. L'utilisation qu'on fait couramment de nos jours de la littérature, dans les pages culturelles des journaux éclairés, et dans les facultés des lettres, est tellement en contradiction avec les objectifs de la création littéraire, aussi bien qu'avec les bienfaits que peut offrir la littérature à un lecteur dépourvu de préjugés, que mieux vaudrait que la littérature cesse désormais de jouer le moindre rôle dans la société. Si j'avais, je continue le personnage, ses propos, si j'avais le pouvoir d'un Staline, dit Philippe Roth et Ami Bellette, je ne le gaspillerais pas à réduire au silence les romanciers. Je réduirai au silence ceux qui écrivent sur les romanciers. J'interdirai toute discussion publique de la littérature dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées. J'interdirai l'enseignement de la littérature dans tous les établissements scolaires, du primaire au supérieur, en passant par le secondaire, ne dit pas le Collège de France. Je prohibirai les groupes de lecture et les chats de discussion sur les livres sur Internet. Alors, je vous permets de vous réveiller avec ce mot de Philippe Roth et d'Ami Bellette, parce qu'en lisant Barthes à l'occasion de son 100e anniversaire, je suis persuadée que non seulement il partageait déjà les révoltes d'Ami Bellette contre une certaine présentation, utilisation, enseignement de la littérature, mais qu'on ne saurait trouver meilleur antidote à cette situation que la manière de Barthes de répondre à la situation en question. Barthes a changé le régime même du discours sur ou de la littérature, le régime de l'interprétation. Il a repris et rénové à sa façon ce pari que des écrivains avant lui, de Diderot à Baudelaire et Georges Bataille, n'ont pas manqué de relever, à savoir qu'il est possible de la littérature si et seulement si je parle à la littérature. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, Barthes a fait ceci en s'appropriant dans un style personnel, dans une écriture, au sens où il emploie ce mot, les avancées de la linguistique, de la sémiologie et plus largement des sciences humaines, face à ce qu'il appelait la compétence littéraire des êtres parlants. C'est dans cet esprit qu'en 1971, dans un numéro de Tel Quel, j'avais essayé de penser son œuvre sous le titre « Comment parler à la littérature avec Roland Barthes ». Et puisque personne n'est prophète en son pays, je me permets de le reprendre aujourd'hui en me situant dans le contexte actuel qu'Ami Bellette dépeint dramatiquement sous la pression de l'image et de la globalisation. Comment, en effet, parler à la littérature si le langage lui-même semble reculer sous la lumière des écrans et dans l'ombre, dans leur ombre, tandis que le roman se réduit à des miettes de SMS, à lâcher d'autofiction ou, mais si rarement, un précieux retour sur soi-même, sur la mémoire du genre et encore plus rarement, en histoire de la pensée, à plus tard ou jamais. Je soutiendrai donc que l'expérience de langage, telle que Barthes l'a vécu et étudié progressivement à travers les diverses étapes de son œuvre, se distingue par ce trait spécifique. Il ne traite pas la littérature ou quelque autre pratique signifiante que ce soit, mythe, peinture, musique, photographie, comme un objet qui serait extérieur. Il cohabite avec cette expérience-là, sans la soumettre à la compréhension et encore moins s'y substituer, mais pour converser avec elle. Cohabitation, conversation, savoureuse et gourmande, tout autant que surveillée et distante, dans laquelle il ausculte la pulsation créatrice antérieure au produit fini, l'avènement et non l'événement, la germination déstabilisante, l'image, la signifiance transversale au sens, à la norme, au consensus. Pourquoi ? Serait-ce parce qu'il a su garder une intimité profonde avec ce que Kafka appelait ce bon hors du rang des meurtriers qui caractérise toute création, ceci dans son journal 27 janvier 1922, le journal de Kafka. Où vivait-il la littérature, constellation et coup de dé au sens de Mallarmé, comme, je cite Mallarmé, un mot total, neuf, étranger à la langue. Il osa déclarer, du haut de sa chaire au Collège de France, on vient de le rappeler, que la langue elle-même est totalitaire quand elle se réduit à son essence de contrat social. Inlassablement, il cherche avec la langue et contre elle ce lieu énigmatique d'où parler à la littérature, en évoquant diverses écritures qui réussissent à échapper à l'uniformité mortifère dont parle l'ami Bellette. Uniformité mortifère du sens commun qui font partie de la banalisation de l'esprit qui nous menace. Et ceci, comment il le cherche, ce lieu ? Par exemple, entre ce qu'il appelle l'hésitation de Gide, c'est-à-dire, dit-il, une image stable du mouvement chez Gide, ou alors entre l'oscillation de l'image toujours déjà déjouée chez Solers, ou encore entre cet art, dit-il, en citant Georges Bataille, de lever l'interdit sans le supprimer. Pour relever, dans l'expérience intérieure de Georges Bataille, des confins avec la mystique dont je parlerai à Paris 7. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas balayer tous les champs de cette recherche énigmatique d'un lieu qui converse avec la littérature sans se confondre avec elle. Ni l'une ni l'autre de ces excès, de ces révoltes, toutes saluées cependant sans que Barthes s'y confonde, j'appellerai une étrangeté sa façon spécifiquement barthésienne de cultiver cette alchimie de l'appel, parler à la littérature, qui n'objectalise pas le sens, mais en révèle le développement, et qui confère à l'expérience de Barthes une extériorité intérieure, une intériorité externe, aussi bien à la sémiologie qu'à la littérature, aussi bien à la pose de l'enseignant comme à la mystique de romancier, aussi bien à la science comme à la fiction, à la théorie comme au style. 100 ans après sa naissance, cet appel à l'étrangeté de l'expérience littéraire, éternelle préparation du roman qui n'aboutira jamais au marketing, eh bien, elle fascine autant qu'elle dérange cette étrangeté, cet appel, les épigones, les élèves, les héritiers. Je maintiens qu'on n'a pas trouvé meilleur antidote donc au marasme de la culture du verbe et du discours interprétatif énoncé par Philippe Roth que l'étrangeté de Barthes. Quelle étrangeté ? Il employa ce mot pour me désigner l'étrangère. Je l'ai reçu comme les asphyxiés reçoivent un bouche à bouche. Je le reprends aujourd'hui, certainement un peu par narcissisme indélébile, mais aussi parce qu'il me permet de parier sur certaines forces qui ne sont pas évidentes en temps de détresse. Je le reprends aussi parce que ce texte prémonitoire sur lequel je reviendrai esquisse dès 1970 les ressources latentes de cette expérience de langage qui est en train de devenir un destin globalisé. Chacun de nous ne se vit-il pas au XXIe siècle comme un exilé, délocalisé, expatrié, un étranger à lui-même, un étrange étranger à certaines étapes de sa vie, sinon continuellement au gré des crises énigmatiques, endémiques et de la recomposition de la civilisation. Chacun puisant à sa façon dans les latences de cette étrangèreté que Barthes nous fait connaître de l'intérieur, car ces migrations sont les nôtres. Permettez-moi donc de vous rappeler, avant de sa migration et son étrangeté telle que je l'aperçois, avant de les faire découvrir à l'œuvre dans son écriture elle-même. Je me souviens d'un matin de mai, brumeux et chaud, dans la solitude poisseuse d'un aéroport surchargé, c'était au début de mai 70, je fais l'achat somnambulique de la quinzaine littéraire, et dans l'avion qui vole vers l'Espagne, je découvre son article qui me désigne ainsi l'étrangère. Était-ce moi ? C'était donc moi. Incapable de suivre l'argumentation, ni même de saisir son effet d'antidépresseur, seul un souffle salvateur s'emparait de moi, hors de moi, et qui me dépassait, le dépassement comme possibilité. Bien plus tard, j'ai pu traverser ce saisissement et déplier les lignes de force de cette étrangèreté que Barthes avait minutieusement projetée sur moi, car elles étaient les siennes, et toute son écriture les met en œuvre. Selon Barthes, l'étranger, la force de l'étrangèreté, tient à sa capacité de déplacement, justement, que j'ai évoquée tout à l'heure. Lui-même change la place des choses. Il dénoue la chaîne du déjà-dit. Il détruit le dernier préjugé, la mythologie ambiante, je le cite, c'est-à-dire la bêtise, des mots qu'il aimait pour les bombarder, pour les désarticuler, l'autorité, la filiation, le sens bloqué par son signifié unique, monologique, disait-il. Il n'interprète pas Racine, Sade, Fourier, Loyola, Balzac et d'autres, mais bouscule la tradition académique et le structuralisme lui-même, qu'il renouvelle pour leur redonner vie ici et maintenant. Comment le travail de l'étranger, selon Barthes, s'approprie cette étrangeté ? D'abord par devenir, comme il le dit, comme il le souhaite, extrêmement et entièrement exact. Qu'est-ce que cela veut dire ? Non pas au sens du puritanisme scientifique. Barthes n'est pas exact parce qu'il utilise exactement les concepts de Hjelmslev ou de Saussure ou de quelque autre référence théorique que ce soit, mais parce qu'il occupe exactement, avec précision, justesse et justice, le lieu de sa recherche, qui est l'étrangeté du sens. Ni technique, ni terroriste, comme on a pu l'accuser, cette exactitude déroutante nécessite des qualités simples. D'abord, la rapidité de son style, la concision, car, dit-il, nous allons toujours trop longtemps et trop loin, contrairement à l'étrangeté qui, elle, est rapide. Deuxième particularité, la lucidité, ou plutôt, dit-il, un supplément de liberté que les enracinés n'ont pas et qui donne à Barthes l'étranger, dit-il, une pensée nouvelle pour gagner des années de travail, hors de la répétition pédagogique, de la complaisance médiatique et hors même de l'inspiration. Et enfin, le regard, et ceci est très important, retourné du langage sur lui-même, c'est-à-dire l'estrangement du langage dans la chair même de la pensée qu'est le langage. Ce non-appartenir, ce ne pas en être, rend l'écriture de Barthes insolite, non conforme, dit-il, au discours professoral, et pourtant critique à l'endroit de la sémiotique elle-même, qui l'a rendue pourtant presque populaire. Il en résulte, dit-il, une défiguration productive, tissée de discours destructeur, retour destructeur et coexistence contrariée. Est-il, en faisant ceci, un révolutionnaire ? Pas vraiment. Ni militant engagé, ni même un révolté, Barthes ne se rebiffe que contre ce qu'il appelle la tarte à la crème de la communication, qui est une marchandise, dit-il, et ce bien avant la société du spectacle, Internet et les réseaux sociaux. En idéologiste méfiant et corrosif, il dénonce le livre clair, son niveau marchand, je cite, auquel on veut réduire, dit-il, la relation humaine. Pour lui, opposer quoi ? La signifiance du texte, c'est-à-dire la gestation dans la sensation et la pluralité des sens, dans la musique des lettres, le coup de dé qui n'abolit pas le hasard. Ce qu'il appelle l'inculture française n'a pas tardé à intégrer institutionnellement l'étrangeté barthésienne dans ce que Barthes appelle l'habitude de clapoter doucement de nos institutions. Bonheur, faveur, reconnaissance s'en suivent. apparemment conciliant, Barthes se laisse faire, mais pour mieux pointer de l'intérieur du clapotement que l'étrangeté et l'étrangère dont il s'agit de mobiliser les forces se posent et s'opposent contre une raison politique, en fait. Cette culture du clapotement est une raison politique où, très exactement, dit-il, le petit nationalisme de l'intelligentsia française. Cette guerre universitaire en apparence culturelle prend alors un tour politique. C'est l'increvable, pur et parfait petit bourgeois français, en majuscule, écrit-il, qui serait le prototype de tous les ennemis de l'étrangeté, par-delà les origines et professions de foi. Car l'autre langue qu'il cherche à nous faire entendre sous l'apparence du sens est celle que l'on parle, dit-il, d'un lieu politiquement et idéologiquement imprenable. C'est le lieu de l'interstice, du bord, de l'écharpe, du boitonnement, des mots qu'il affectionne, lieu cavalier, dit-il, parce qu'il traverse, chevauche, panoramique et offense. Alors, pour essayer de situer cette écriture de Barthes telle qu'il la dessine comme étrangère dans le débat français autour de l'écriture, débat que certains d'entre vous connaissent, qui a occupé des années 60 jusqu'à la fin du XXe siècle, avec les œuvres de Blanchot, de Telquel, de Barthes, bien sûr, et de Derrida, j'essayais de replacer son expérience, surtout entre Blanchot et Sartre, et la vision qu'il nous donne de l'écriture entre ces deux grands sommets de l'auscultation de l'expérience littéraire. Les textes de Blanchot, et en particulier l'Espace littéraire, publié en 1955, sont nourris d'une lecture du judaïsme, mais aussi, bien sûr, de toute la littérature qui précède Blanchot. Et ils ont nourri les réflexions de Barthes sur l'écriture. Pour Blanchot, dans cette optique que je viens d'évoquer, l'écriture est un acte paradoxal, livré, dit-il, à l'absence du temps. L'écriture est, je cite encore, « perte de l'être, quand l'être manque, une lumière éblouissante, elle est sans figure et infigurable ». Chez Blanchot, c'est la métaphore du dieu juif, le plus exigeant en vérité, ainsi que le territoire du sublime, le tout autre, qu'il extrait du cheminement psychosexuel, l'espace de l'absolu, du on, majuscule de l'impersonnel. Blanche lumière, pas de psychosexualité, pas d'érotisme du corps. En revanche, nous le retrouverons chez Barthes. Pour Barthes, donc, tout en étant attentif à cette percée de Blanchot qui nous fait révéler l'écriture de manière particulière et éblouissante, l'écriture, c'est en consonance avec Blanchot, est une désaisie du lire, du dire antérieur. Elle est toujours enracinée dans un « au-delà du langage », je le cite. Elle se développe comme un germe et non comme une ligne. Elle manifeste une essence et menace un secret. Elle est une contre-communication. Elle intimide. Il y a dans l'écriture, je cite encore, une circonstance étrangère au langage. Il y a comme le regard d'une intention qui n'est pas celui du langage. Ce regard peut être bien une passion du langage, je continue la citation, comme dans l'écriture littéraire. Il peut être aussi la menace d'une pénalité, comme dans l'écriture politique. Écriture littéraire où l'unité des signes est sans cesse fascinée par des zones infra- et ultra-langagières. Ces phrases qui résonnent avec Blanchot sont écrites en 1953 et ces lignes deviendront une méthode d'analyse qui sera appliquée en 1969 à SZ. Cette étymologie du désengagement, de l'absolu, de la pureté avant et ultra-langue, ce structuralisme déceptif, à force d'être subtil, ne reste pas moins une praxis pour Barthes. Et c'est pourquoi le vis-à-vis avec Sartre s'impose. Parce que Barthes oppose à tous ceux qui seraient tentés de pathologiser ou de psychologiser l'écriture, il leur propose de la penser dans l'histoire. Les études différentes mais comparables, selon lui, de Mérimée, de Lautréamont, de Mallarmé, de Céline, de Queneau, de Claudel, de Camus, sont produites, dit-il, dans un mouvement identique qu'est la réflexion de l'écrivain sous l'usage sacral, pensons à Blanchot, de sa forme et le choix qu'il en assume. L'écriture est donc essentiellement la morale de la forme. Fin de citation. Comment entendre cette morale de la forme ? Y aurait-il un moralisme amoral dans la vérité formelle qui échappe à ces mensonges intéressés et généreux ? Je cite Barthes. Y aurait-il un moralisme que j'appellerais amoral dans, je cite Barthes, la vérité formelle qui échappe à ces mensonges intéressés et généreux ? Barthes, donc, s'emparant de Blanchot, conteste par sa vision de la littérature, conteste en bord à bord la vision de Sartre, tout contre Sartre. Pourquoi ? Parce qu'en effet, l'existentialiste professait que, je cite, « l'œuvre s'inscrit dans la vie qu'elle éclaire, mais, je cite Sartre, ne trouve son explication totale qu'en elle-même et ne révèle jamais les secrets de la biographie. » Ceci, c'est dans la question de méthode, dans la critique de la raison dialectique. Si le langage, dit Sartre, est une praxis, et la praxis est toujours langage, leur détermination, pourtant, selon Sartre, est de l'ordre de l'idée, de l'option philosophique, du message. Pour Barthes, au contraire, cet engagement dans la praxis, dans le langage comme praxis, se situe au contraire, non pas dans l'idée, dans l'option philosophique, mais dans le jeu de formes. Induit par quoi, ce jeu de forme ? Par la liberté de l'écrivain de se placer dans la pluralité des logiques et des formes du sens, dans le choix de la forme. Tandis que, selon Sartre, les structures interindividuelles du langage forment la praxis des hommes dans l'histoire et orientent l'expérience de Sartre, l'écrivain, tribun et militant. Au contraire, l'écriture praxis que Barthes ausculte, tout en jouxtant l'émiettement et la sémioclastie, sans figure infigurable, elle traverse le seuil du message langagier et produit un sens en plus, un sous-sens, un delà du sens, dans la forme qu'il cherche du langage, dans son exactitude, dans la reformulation de sa communicabilité. Une praxis donc infra- et supranormative, son appel à la mort de l'auteur ne doit pas être entendu comme une annulation de l'expérience singulière, mais seulement comme un appel à lever la réduction de l'écrivain à son identité sociale, à son message, fût-il biographique ou textuel, mais sans supprimer cette singularité. Car c'est elle qui redistribue les formes qui sont autant des morales de langage. Donc, la formalité comme praxis et comme choix historique. Dès lors, l'écriture s'affirme donc comme une praxis historique, elle habite l'histoire, mais comme infra- et supranormative. Serait-elle une histoire cordiale dont Barthes parle dans son Michelet, quand il dit que Michelet forme une histoire, mais qu'une histoire cordiale, au sens où elle fait, l'histoire de Michelet, un appel à la subjectivité, même si sur le plan des historiens et de tel ou tel fait historique, il dérape ou ne veut pas savoir. Mais cette subjectivité inscrite dans l'histoire lui donne son côté savoureux, cordial, mot-clé aussi de Barthes, des plus informulables. Une subjectivité surprenante. Écoutons donc dans cette optique de la formalité comme forme historique un certain nombre de phrases de Barthes que j'aimerais vous faire entendre parce que je pense que notre célébration de son 100e anniversaire devrait nous faire entendre sa manière de parler. Écoutons donc cette nouvelle auscultation de l'histoire devenue nouvellement lisible à travers le sujet signifiant qui cherche ses formes infralangagières au contact du corps. Je le cite. Le structuralisme, dit-il, mais ça, c'est sans doute le post-structuralisme parce que c'est ce qu'il faut pratiquer, ne retire pas au monde l'histoire. Il cherche à lier l'histoire non seulement des contenus, cela a été mille fois fait, mais aussi des formes. Non seulement le matériel, mais aussi l'intelligible. Non seulement l'idéologique, mais aussi l'esthétique. Ou encore, l'histoire est alors devant l'écrivain comme l'avènement d'une option nécessaire entre plusieurs morales de langage. Elle oblige de signifier la littérature selon les possibles dont il n'est pas le maître. On n'est pas le maître, on est dans le possible des formes. La langue étant l'horizon et le style, la verticalité historique, c'est-à-dire biologique, le style et la verticalité biologique, la langue et l'horizon, l'écriture entre la verticalité biologique et l'horizon de l'histoire. Qu'est-ce qu'il en résulte ? La langue et style sont des forces aveugles. L'histoire et la biologie sont des forces aveugles. L'écriture est un acte de solidarité historique parce que je vais inventer les formes qui vont relier votre biologie, votre style à votre horizon qu'est l'histoire où vous êtes et vous êtes appelé à intervenir. Et pour finir, est écrivain celui pour qui le langage fait problème, qui en éprouve la profondeur, non l'instrumentalité ni la beauté, ni moyen de communication, ni moyen d'extase. La profondeur, celle qui nous renvoie au corps. D'où cette étonnante vision révoltée de l'écriture que je cite. C'est dans Sade Fourier Loyola. Il n'y a aujourd'hui aucun lieu du langage extérieur à l'idéologie bourgeoise. Vous pouvez actualiser en changeant l'idéologie bourgeoise. Il n'y a aujourd'hui aucun lieu du langage extérieur au spectacle, à l'interconnexion, à la marchandisation. Et Barthes continue. La seule riposte possible n'est ni l'affrontement, ni la destruction, mais seulement le vol. Fragmenter le texte ancien de la culture, de la science, de la littérature, et en disséminer les traits dans des formules méconnaissables. L'écriture excède les lois d'une société, une idéologie, une philosophie qui se donne ou s'accorde à elle-même dans un bon mouvement d'intelligibilité historique. Je crois que j'ai épuisé mon temps, mais je vais peut-être, si vous me donnez deux minutes, dire deux mots sur le texte que je souhaitais vous faire revisiter en esprit quand on ne pourra pas le lire, qui me semble rendre, non pas compte, mais rendre palpable, rendre physique, rendre corporel ces principes de l'écriture vol, fragmentation, infralinguistique et qui vous touche dans votre biologie. Donc, comment s'imprime ce projet ? C'est le discours amoureux, évidemment, où il s'appelle lui-même l'intraitable amoureux, à contre-courant du discours des professeurs, du discours des politiques, du discours des médias. Donc, en imprimant à sa propre trajectoire ce développement révolté des signes jusqu'au sensible pour leur donner un retour, un nouveau sens, Barthes va réhabiliter le discours amoureux, dont il dit qu'il est d'une inactualité obscène, non sans une perfide ironie, évidemment. Et il fut en effet le premier, avec Gilles Deleuze, à mon sens, qui, par d'autres voies, ont réagi contre la banalisation robotique d'une société désormais virtuelle. Vous en connaissez quelques figures de ce discours amoureux. L'effondrement amoureux. Il me vient envie de m'abîmer, ni bonheur, ni blessure. Il me vient parfois l'envie de m'abîmer. Et c'est l'amour. L'effondrement amoureux. Mais aussi la ruse, mais aussi la bêtise, mais aussi le délire, forcément sublime. Jamais Barthes n'a été aussi près du roman, mais sans franchir le seuil, je dirais qu'il figure l'interprétation là où le romancier raconte. Et l'état amoureux atteint à l'obscénité révélatrice du dénouement, selon Georges Bataille, du dénuement plutôt, lorsque Barthes dit que le discours amoureux est la forme nécessaire de l'impossible et du souverain. Évidemment, c'est le discours homosexuel qui, dans un tel sarcasme, revendiqué par Barthes, voisine avec le ridicule et le sublime. Le ridicule, un vieux poupon sentimental, il emprunte la phrase à Fourier, mais en même temps, un discours qui va être d'une exactitude, je reprends sa variation sur l'étrangeté, une exactitude qui doit nommer l'amoureux et son discours, non pas en discourant, mais avec des mots précis qu'il appelle un tel, ou mieux un texte, indistinctement. Je le cite. « En te désignant comme tel, toi, l'amoureux, et moi, l'amoureux ou l'amoureuse, je te fais échapper à la mort du classement. Je t'enlève à l'autre, je t'enlève au langage. Je te veux immortel. L'ennemi noir du tel, c'est le potin, fabrique immonde d'adjectifs. Pas d'adjectifs, pas de potin. Et ce qui ressemble le mieux à l'être aimé tel qu'il est, c'est le texte sur lequel je ne puis apposer aucun adjectif, mais dont je jouis sans avoir à déchiffrer. » Du discours amoureux donc de Barthes, donc il serait à peine un texte et qui n'est que, dit-il, l'amène la limite même du langage, de l'extrême concision. Je prétends pour moi-même et je prends sur moi-même les mépris dont on accable tout pathos amoureux, autrefois au nom de la raison, aujourd'hui au nom de la modernité. La seconde figure du discours amoureux est celle de l'amour maternel. Il se dissémine en mains endroits des fragments, de l'enfant proustien, qu'il dit « veut se voulant follement amoureux », selon Barthes, chez Proust, à l'enfant winnicottien, qui abrite, et Barthes a beaucoup lu Winnicott, une primitive agonie, dit-il. Je cite Barthes, « Nous nous maternons dans l'amour réciproquement. Nous revenons à la racine de toute relation où on a le besoin et le désir qui se joignent. » Donc, l'angoisse d'amour lui apparaît dès lors quand elle est référée à la relation mère-enfant, au deuil obligatoire même avant la mort de sa mère, puisqu'il faut se séparer de la mère, faire le deuil de la mère et attendre que quelqu'un la remplace, d'où la permanence de la séparation, du deuil, de l'impossible, de l'attente dans tout discours amoureux. Il faudrait que quelqu'un me dise « Ne soyez plus angoissée, vous l'avez déjà perdu, eux, maman. » L'amoureux est toujours déjà perdu comme les mamans. Et puis la dernière figure, c'est le non-vouloir saisir, qui va à l'encontre justement du discours qui veut tout comprendre, qui veut discourir, qui veut capter, qui peut devenir totalitaire, qu'il écrit NVS, formule d'inspiration orientale. C'est donc le dernier mot de ces fragments qui n'ont pas fini de sceller leurs énigmes. Un NVS sec, ni bonté, ni renoncement, d'un côté le monde sensoriel, de l'autre ma vérité, aimer sans vouloir saisir, telle est la devise de cette nouvelle utopie amoureuse, de ce ravissement à la manière du mystique flamand Ruiz Brock que Barthes cite et qu'il m'a souvent répété. Âme libre et ivre, oublieuse, oubliée, ivre de ce qu'elle ne boit pas et ne boira jamais, sa définition de l'amour. Ivre, mais de l'impossible, de l'attente, et néanmoins dans une sorte de joie sereine et élégante. Est-ce que c'est un aveu de frustration ou de défaite? Je ne pense pas. Le sentiment amoureux, je le cite, est démodé, mais ce démodé, et il reprend là son côté révolté, son côté Camus, mais ce démodé ne peut même pas être récupéré par le spectacle, et c'est ça qui le rend heureux. Oser dire le puéril revers des choses face au spectacle. Redonner de la saveur à une histoire qui a perdu ses valeurs, mais qui sauvegarde encore la sensation de vérité que l'écriture va lui donner. L'écriture au sens de Barthes. Les fragments du discours amoureux contre le spectacle, en somme, pour persévérer dans l'étrangèreté de ce qui nous fait construire du sens. Je quitte à regret avec vous ce voyage dans les textes de Barthes et je vous invite, bien sûr, à vous y replonger. Vous y retrouverez sans doute les lignes de force de vos étrangetés, de vos étrangèretés, pour essayer de parler non pas de, mais à la littérature, et je vous en remercie.